Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Batik, salut Technique Savoir, salut Baptiste, salut Geek Tech. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Salut Samuel. 5 sur 5, nickel. Bon, il risque toujours d'y avoir des problèmes de son, hein. Vous savez qu'en ce moment. Mais on ne peut rien faire, je le redis encore une fois. Il y aura toujours des petits problèmes de son tant que je ne sais pas. Je pense que c'est à YouTube de corriger quelque chose. Yep. Ou c'est des problèmes de peering entre vos opérateurs et YouTube. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'infos là-dessus, j'ai cherché. J'ai l'impression que ça n'arrive qu'à nous, ce qui est inquiétant. Le son est nickel pour toi. Ouais, mais il y a des gens pour qui c'est nickel. J'ai regardé le replay d'hier. J'ai l'impression que le son est pas trop mauvais. Donc voilà. Merci Samuel de rappeler le Now Take a Drink. On en reparlera tout à l'heure pendant les annonces. J'espère que vous allez bien. Salut Victorious Big. Salut Drone Your Life. Jean-Claude. Michael. Toujours à Las Vegas, Michael. Bon, t'as gagné là, parce que n'oublie pas, hein, 10% sur Tipeee, hein, de tous tes gains. Par contre, tes pertes, on n'en veut pas. Hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Les petits génies, Francky, Antoine, Imaginali, Jérôme, Baptiste, Michalina, bonjour, Michael. Salut, Caribou. Salut Laurent, salut 626, salut Philippe, Mathias, Macalga, Sultan, David, Toufou, Michael, Andrei, Sultan, Denis, etc. Bonjour à tous, vous avez l'air bien réveillés dans la chatroom. Déjà 80 personnes dans la chatroom, c'est fou! C'est complètement fou. De quoi on va parler ce matin? Eh bien, de choses complètement folles. Breaking news, personne ne s'en doutait. Ça y est, Microsoft officialise enfin la mort du Windows Phone. Bon, il n'y aura pas grand-chose à dire, mais on en parlera quand même. On se rappellera nos vieux Nokia, à quel point on y a cru, à quel point c'était le meilleur OS, mais ça suffit pas, etc. On parlera également de Tim Cook et de Macron. Ils ont eu un dialogue constructif, ce qui ne veut absolument rien dire. On relatera un petit peu le périple de Tim le cuisinier hier en France. On parlera également de Bethesda et de Wolfenstein, qui avait fait une mini polémique qui ne peut arriver qu'aux États-Unis en ce moment. On avait trouvé que. Accrochez-vous bien quand même. Hein. On avait trouvé que leur annonce était un peu trop anti-nazi. Ok, Bethesda dit, bah oui, nous sommes anti-nazis. Voilà. Au moins, c'est dit. Alors, on en parlera un petit peu plus justement de ce climat-là dans d'autres articles. On parlera, parce qu'on a beaucoup de retours de gens qui disent iOS 11, ça ralentit mon vieil iPhone. Obsolescence programmée, Apple, eh ben, on a des résultats de benchmark. A priori, non, iOS 11 ne ralentit pas les vieux téléphones. Les problèmes de batterie, c'est encore autre chose, mais justement, on en parlera. Mais c'est plus du niveau de la perception qu'autre chose. Comment convaincre ma mère de m'acheter un iPhone 10? Pas facile comme question. Repose-la à la fin de l'émission, on va réfléchir. On parlera également de Google qui a trouvé des contenus sponsorisés liés à la Russie. Toujours cette fameuse histoire. C'est très important, il faut bien comprendre pour les Américains ce qui se passe en ce moment avec leur congrès et l'enquête du congrès. Et effectivement, de jour en jour, pas mal de choses sont dévoilées. On parlera également du Pixel 2, XL. Eh bien non, on ne les aura toujours pas en France. J'aimerais vous amener une bonne nouvelle, mais on ne l'a pas. Mais par contre, je vous dirai comment se les procurer si vous les voulez absolument, tout en restant en France, et les problèmes liés à ce type d'achat à l'étranger. Et on terminera en parlant de la carte Navigo, donc une news parisienne pour les Parisiens, mais à mon avis qui devrait concerner aussi d'autres transports en France, puisque la carte Navigo sera disponible sur votre smartphone en 2019. Mais vous verrez que, encore une fois, on a réussi à compliquer les choses à la RATP. Bravo à eux. Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que le café, le thé, le chocolat, tout ce que vous buvez est bien dans la tasse. Et que vous êtes prêt à démarrer ce Texcope. Ça va la chatroom? Je vois plus personne là. Ça m'inquiète toujours quand la chatroom est vide. Vous êtes peut-être encore pas mal endormi. Hein. La vodka est bonne. Ah ben, bravo, Michael. Hein, vodka le matin, cirrhose le soir. Hein. Le matin, c'est compliqué. Je suis dans mon plaid. Vous avez un rapport compliqué avec Texcope, une espèce d'amour-haine en fait. Je suis content de regarder l'émission, mais en même temps, c'est quand même 8 h du matin, c'est chaud patate quoi. 23 h à Vegas, Michael. Allez, on va commencer tout de suite ce Texcope numéro. C'est le numéro combien? 569? Je crois que c'est quelque chose comme ça. 569, ouais, j'ai bon. Dans les bouchons, Unchi, eh ben écoute, on te plaint. Ce qu'on plaint aussi, enfin non, je ne sais pas s'il faut les plaindre, si c'est la fin d'une douloureuse histoire pour Microsoft, le Windows Phone. Microsoft a officialisé hier que c'était vraiment la fin de Windows Phone. Il y aura quand même des mises à jour pour corriger des bugs, mais plus aucune évolution, ni software, ni hardware. Joe Belfiore l'a explicitement confirmé via Twitter hier. Alors, ça n'étonnera personne, hein. On était tous au courant que Windows Phone, c'était mort, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas eu de déclaration vraiment officielle ou genre voilà ce qu'on vous prépare après. D'une manière générale, de toute façon, on a quand même un petit peu l'impression, il y a aussi une rumeur, vous la lirez peut-être aujourd'hui, selon quoi Microsoft s'apprêterait à abandonner les surfaces. Alors, ça, j'y crois moins, mais c'est vrai qu'il y a un certain repli en ce moment de Microsoft pour se recentrer sur certaines activités, tout ce qui n'est pas ultra rentable pour eux. Il y a des doutes. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Je pense que c'est une tristesse pour nous, grand public, parce que c'est surtout des produits, comme on l'a vu avec leur offre de streaming musical, etc. C'était des produits qui permettaient de se construire un écosystème pour particulier Microsoft. On a quand même l'impression que Microsoft se recentre un peu sur ses activités professionnelles. Et comme je l'ai dit dans le rendez-vous tech qu'on a fait au Microsoft Experience, on a un peu l'impression que Microsoft, leur but actuellement, c'est de devenir l'écosystème des écosystèmes. Plus de devenir un écosystème Windows, mais plutôt de développer des outils pour que les autres écosystèmes, donc d'être présent sur tous les écosystèmes, en fait. C'est surtout un problème pour la concurrence. Le fait que Windows Phone disparaisse, oui, d'une certaine façon, oui, t'as pas tout à fait tort. Une concurrence à deux, c'est jamais très sain. Et là, d'avoir juste iOS et Android, c'est pas, ça donne jamais de très bons résultats. Il faut au moins qu'il y ait un troisième trublion, quoi. Donc, bon, on va voir comment les choses évoluent. En tout cas, Joe Belfiore a une petite phrase. Hier sur Twitter, il dit: Of course, we'll continue to support the platform, bug fixes, security update, etc. But building new features aren't the focus. Et surtout, il a rajouté après: We have tried very hard to incent app devs. Paid money, wrote apps for them, but volume of user is too low for most companies to invest. En gros, il explique pourquoi ça a échoué, d'après lui en tout cas, mais je pense que l'analyse est bonne. Il dit, on a essayé vraiment très très fort d'inciter les développeurs à développer sur la plateforme Windows Mobile. On les a payés. On a écrit des applications. Moi, je me souviens, Windows écrivait des applications pour certaines marques, mais le volume d'utilisateurs est resté trop bas pour la plupart des compagnies, des entreprises, pour que la plupart des entreprises investissent dans cette plateforme. Donc, c'était un peu, mais on l'a analysé moult, moult fois, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Il y avait peu d'utilisateurs parce que ça manquait d'app, donc les développeurs ne développaient pas parce que ça manquait d'utilisateurs. Il y a plein, plein de raisons. Et encore une fois, hein, et on le dit, on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec Marion, cette plateforme avait beaucoup de choses pour elle. Elle était très en avance sur certains principes. En termes de design, elle était hyper intéressante. Il y avait un vrai changement par rapport à iOS et Android qui, alors désolé, hein, il y en a certains qui vont cracher leur café par le nez quand je vais dire ça, mais tant pis, j'ose le dire. Il y a quand même beaucoup de similitudes entre iOS et Android. C'est des systèmes qui sont basés, on va dire, sur des principes qui sont relativement les mêmes, en termes d'interface, hein, j'entends. Windows Phone, avec son système de tuiles qu'on ne devait plus appeler des tuiles, je ne sais plus, il y avait quelque chose de beaucoup plus propre, une architecture qui, à la fois, était beaucoup plus omniprésente, donc qui rangeait mieux les choses. Mais d'un autre côté, il y avait quand même, voilà, on pouvait développer plus largement que sur iOS. Il y avait beaucoup d'atouts. Le hardware était bon, voire très bon. Les Nokia, techniquement, que ce soit en photo, que ce soit en hardware, étaient en avance sur la concurrence. Ce qui amène d'une manière générale, et ça, c'est une bonne leçon à retenir pour nous, fans de tech. Il ne suffit pas d'être les meilleurs, il ne suffit pas d'être les premiers. Il faut. Le marketing, ça compte. Et je pense que le marketing n'a pas été bon. Il a été hésitant sur les Windows Phone. Au début, ils ont vraiment cherché à séduire les geeks. Et c'est ce qu'il fallait faire, à mon avis. Mais après, l'année d'après, ils ont essayé de faire des campagnes grand public en se disant, de toute façon, les geeks ne s'intéressent pas à nos smartphones. Et voilà, le why, ça compte. Damien a tout à fait retenu les trois cercles d'or. Ils n'ont jamais bien expliqué, ou en tout cas bien fait percevoir, pourquoi Microsoft, pourquoi Windows faisait des phones, et en quoi ils voulaient être différents, quel était leur ADN, en fait, quelle était leur raison d'être. Ils nous ont beaucoup expliqué que c'était mieux. Ils nous ont beaucoup expliqué que c'était plus puissant, et voilà tout ce qu'ils avaient, et tout ce qu'ils avaient signé avec les constructeurs et tout ça, mais ils n'ont jamais vraiment expliqué pourquoi. Il y avait un côté. En fait, c'est en marketing, ils se sont à la fois positionnés comme des suiveurs, mais en même temps, ils étaient assez révolutionnaires. Enfin, ils se sont cherchés, quoi. Ils se sont cherchés, ils ne se sont pas trouvés. 0,3% de part de marché, autant dire rien du tout pour un acteur majeur. Oui, Ballmer n'était pas du tout dans le why, oui, ça c'est sûr. Il n'a pas fait que des conneries, Ballmer. Moi, je pense qu'il faut l'histoire. Mais bon, oui, sur le Windows Phone, il s'est vautré comme un vieux lion de mer. Ça lui va bien, vieux lion de mer. Je fais très très bien le vieux lion de mer, hein. Des années d'imitation animale. hein, vous m'avez déjà vu dans mes performances du dragon virtuel, de réalité augmentée. La collaboration avec Nokia était un peu forcée. Elle a surtout été faite à l'envers, quoi. Ils n'ont pas acheté la bonne chose chez Nokia, en fait. Et Nokia continuait à faire du bon hardware. Le problème n'était pas là. Le hardware a suivi, l'intégration du software et du hardware était bonne. Il y a eu, mais vraiment, des erreurs. Alors, il y a eu des erreurs de marketing, mais il y a eu aussi, enfin, souvenez-vous quand même, les versions de Windows Phone qui n'étaient pas compatibles entre elles. Tu t'achetais un Windows Phone, tu y croyais à fond, et l'année d'après, on disait, mec, en fait, on va pas arriver là, la mise à jour. Ça va pas marcher sur ton truc il y a même pas un an, quoi. Et ça a été quand même catastrophique. Le store n'était pas bon aussi. L'offre, le problème, c'est qu'ils essayaient, enfin, les applications arrivaient soit avec un an de retard par rapport à Android et iOS, donc trop tard, soit c'était des versions tronquées. Bref, il y avait quand même des gros problèmes. Moi, je reste persuadé quand même qu'il y a eu un gros problème de marketing. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, je peux le dire maintenant parce que je pense qu'on risque plus rien. Nous, on travaillait avec Microsoft, avec l'époque de NoWatch, pour développer une émission autour des Windows Phone, vraiment à l'intention des geeks, parce que c'était vraiment partie du postulat que les geeks, les gens fans de tech, c'est eux qui allaient être les porte-parole de ce Windows Phone et le faire vendre. Et puis, en gros, le projet est tombé à l'eau parce qu'une agence et un nouveau directeur marketing est passé en disant non, non, faut vendre le téléphone à Madame Michu, il faut surtout pas compliquer les choses, on va lui dire qu'il est bien et ça suffit, qu'il n'est pas cher. Et voilà, donc nous, on a été rayés de la carte. Bref, des tâtonnements, quoi. Des gros, gros tâtonnements. Et c'est dommage. Et aucune, en tout cas, indice que Microsoft va s'y remettre. Moi, je me demande si la croyance du Surface Phone, c'est un vœu pieux. Surtout qu'il y a une légère rumeur que Microsoft abandonnerait les Surfaces. Encore une fois, j'y crois moins. Je pense que, enfin, à voir. Tout n'était pas complètement con dans l'article qui disait que Microsoft allait abandonner les Surfaces. On entend qu'il parle sur un projet Andromeda, un nouvel appareil en développement qui devrait tourner sous Windows Mobile. À voir, à voir. Je pense effectivement, comme je l'ai lu là dans la chatroom, Microsoft s'est beaucoup recentré sur le service et peut-être moins sur des problèmes de hardware. C'est quand même dommage. Moi, ça m'attriste parce que je préfère être sur un marché où il y a trois acteurs. Ça, je vous le dis fondamentalement, je crains toujours les marchés où il n'y a que deux acteurs. Et Android et iOS, ils ne se poussent pas l'innovation l'un l'autre, je trouve. Ils vont prendre le même virage qu'IBM? Ouais, à voir. Leur marché est quand même pas exactement. IBM, c'est même pas le pro, IBM. IBM, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont abandonné le marché professionnel IBM. IBM ne fait que du B2B, quoi. C'est vraiment, voilà, ils équipent les grosses entreprises avec des gros serveurs, des gros trucs, quoi, des grosses solutions propriétaires et des choses comme ça. Ils font plus de bureautique IBM, par exemple. Je pense quand même que Microsoft a des armes très solides en termes de bureautique et de vie de bureau, quoi, en gros. Ouais, non, mais Jérémy, on était beaucoup, hein, et moi encore, je le dis, j'en avais testé des Windows Phone et je leur trouvais quand même d'énormes qualités. Mais c'est vrai que c'était insupportable en tant qu'utilisateur, t'avais pas Instagram, enfin, il te manquait plein de choses, quoi. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, on passe aux petites annonces. J'en ai deux petites à vous faire. J'en ai une quand même assez importante. J'ai enfin, comme Microsoft, j'ai enfin mis à jour la page Tipeee. Donc sur la page Tipeee, j'ai corrigé un certain nombre de choses. Il y avait des vidéos qui dataient un petit peu en exemple. Donc j'ai remis la page Tipeee au goût du jour. J'ai enlevé toutes les mentions de Periscope qui existaient encore. A priori, si vous en trouvez, signalez-moi. J'ai également précisé le quatrième palier parce que on commence à être en vue du troisième palier. Il est encore à peu près à 700 euros, hein, le troisième palier, on n'y est pas encore. Mais je me suis dit qu'on était quand même prêt à annoncer le quatrième palier du Tipeee pour Nowtech. Et surtout, et c'est peut-être la news, le mot périscope est toujours présent. Bon, bah, il faudra que j'aille, à la limite, envoie un petit mail à nowtechtv@gmail.com en nous disant à quel endroit il y a encore le mot périscope. Et surtout, voilà, il y a une vingtaine, alors je crois qu'il y en a moins parce que déjà il y en a qui s'en sont emparés, mais j'ai ouvert 20 nouveaux comptes Early Bird Platinum. Donc si vous vouliez du Platinum à 7 € au lieu de 10 €, c'est, voilà, je le dis exclusivement pour les gens qui écoutent Techscope. Voilà, il y a des nouveaux, je sais que beaucoup le demandaient. Jusqu'ici, je ne voulais pas trop le faire. Parce que bon, early bird, ça veut dire les premiers. Maintenant, notre communauté a quand même un peu grandi. Donc, je me suis dit qu'il était pertinent. Après, l'idée quand même pour moi, c'est de garder les early bird limités. Oui, c'est early 2 ans après. On va dire, c'est early bird pour le quatrième palier, hein, Tofu. Hein, on va dire ça, on est d'accord. Donc voilà, j'ai ouvert, et surtout que je vous explique, avant je ne pouvais pas modifier ces trucs-là dans Tipeee et maintenant on peut. Voilà. Patreon, non. Je sais que Guillaume Slash passe sur Patreon. Non, je vous explique pourquoi je ne veux pas être sur Patreon. Je ne veux pas avoir une communication trop compliquée. Genre, je suis sur Patreon, je suis sur Tipeee et vous pouvez aussi faire des super chats. Enfin, il y a un moment, too much. En plus, en termes de comptabilité, ça serait compliqué. Donc, pour l'instant, pas de Patreon. J'aimerais que Patreon rachète Tipeee. Ça serait cool. Le problème de Patreon, en plus, personnellement, je trouve qu'effectivement, le paiement en dollars, c'est pas génial ni pour vous, ni pour nous, dans l'absolu. Donc, je sais que la plateforme est plus évoluée que Tipeee. Il y a des choses hyper intéressantes et Discord est intégré. Il y a tout un tas de choses intéressantes. Mais si on switch, ça serait pour abandonner Tipeee. J'ai pas envie d'avoir deux plateformes de crowdfunding en même temps. Faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, ça me paraît pas productif de faire ça en fait. Donc ça, c'était la première annonce. Il y a des nouvelles places Platinum Early Bird à 7 € qui sont dispo sur le Tipeee. Également, vous rappelez, comme Samuel l'a fait en début d'émission, de nous rejoindre le 11 novembre au Corcoran. Merci Pascal pour ton super chat. On dit super chat et Pascal dégaine. Merci beaucoup à toi Pascal. Ça y est, tu es early bird. Merci Jean-Pierre. Oui, le 11 novembre, on fait un Now Take a Drink. Ça sera en plus, je crois que c'est férié ce week-end-là, si je ne me trompe pas. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez monter sur Paris. Il y a plein d'autres choses, il y a plein de choses intéressantes à voir à Paris, sa pollution, ses clodos, les gens qui font la gueule dans le métro. Bref, tous les monuments historiques de Paris sont à visiter. Et un des monuments, c'est effectivement le Now Take a Drink au Corcoran du Sacré-Cœur. On s'y retrouvera vers 19 h. C'est également le week-end du Salon de la Photo. Oui, on y sera au Salon de la Photo. Donc, viendez. Voilà. Viendez au drink. De toute façon, je n'accepterai pas les mots d'excuse cette année. C'est simple. Si vous êtes sur Paris, ou si vous avez la possibilité de venir sur Paris, et que vous venez pas au Now Take a Drink, je vais sérieusement vous faire la gueule. Ça, c'est dit. Faudra expliquer le Slack, tu n'y comprends rien. Écoute, le Slack, c'est pas l'endroit pour expliquer, mais c'est intéressant que tu me dises que tu comprends rien au Slack. Alors, le Slack, je sais que c'est pas évident, et là, j'en profite pour faire un message à tout le monde d'ailleurs. C'est normal que les premiers sur le Slack, enfin, c'est pas évident pour un nouveau d'arriver sur le Slack. Il y a déjà, entre guillemets, une culture familiale sur le Slack de Nowtech réservé aux contributeurs. Les nouveaux ont un peu l'impression qu'on ne les écoute pas. Moi, je ne suis pas aussi présent que je voudrais sur le Slack. Comprenez bien que tout est une question de temps et qu'actuellement et depuis toujours, je consacrerai toujours le plus de temps possible aux vidéos et le moins de temps au reste parce que je n'ai pas le temps d'être partout. Vous voyez bien combien de temps ça prend de faire des vidéos. Ce que je veux dire, c'est que soyez accueillants, hein, les anciens sur le Slack. Les nouveaux, n'hésitez pas à poser des questions sur le Slack lui-même. La Timothée est là aussi, hein, pour vous accompagner dans vos premiers pas sur le Slack. Après, voilà, le Slack, c'est une grande salle de conversation. Ça va parfois vite. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent moins. On va dire que c'est une ambiance de taverne. N'hésitez pas à venir poser des questions. Le canal général est réservé justement à cet accueil. Je le redis aussi pour les anciens. À part moi qui ai le droit de poster certains trucs dans le général pour qu'un maximum de monde soit au courant, le général est vraiment fait pour les news de la chaîne et pour accueillir les nouveaux. C'est un peu le vestibule, on va dire, du Slack. Donc, les news tech, oh là là, l'iPhone 10 est dispo chez Boulanger. Il y a un canal tech pour en parler, ce genre de choses. Faudrait changer le titre, oui. On l'appellerait le vestibule, je pense que ça serait un peu pareil, mais bon. Merci Samuel. Samuel qui nous fait un super chat. Pour vous mettre en plus en valeur l'événement Facebook Now Take a Drink, oui, qui est sur Facebook. Vous pouvez effectivement vous inscrire et je vous incite à le faire, de vous inscrire si vous venez effectivement au Now Take a Drink. Ça permet de comptabiliser un peu le nombre de gens qui risquent de venir et d'avertir le Corcoran, voir si on va avoir la salle en bas et tout ça. Allez! On continue et on va parler de Tim Cook et de Macron. Président Macron. Ils se sont rencontrés hier. A priori, ils ont eu un dialogue constructif. Qu'est-ce que ça veut dire, un dialogue constructif? On n'en sait rien. Bon, on suppute quand même qu'il y a dû avoir quand même pas mal de discussions sur la taxation des GAFA, hein, les impôts, les redressements fiscaux. On sent par pas vraiment des déclarations, mais les GAFA sont prêts à payer. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas, et je les comprends aussi, ils ne veulent pas être le dindon de la farce. C'est-à-dire que c'est une cible de choix, hein, les GAFA, pour les politiques. Merci, Jérôme, pour ton jour du passage du MacBook Pro à l'iPad Pro. Ah, bah bravo à toi, Jérôme, tu nous feras un report. C'est vrai que les GAFA et cette histoire enfin ces histoires fiscales autour des GAFA en font quand même les. Alors, ce n'est pas les dindons de la farce, c'est plutôt les boucs émissaires d'une partie de la classe politique. C'est quand même. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un problème. Attention, hein, il y en a qui ont vite fait de me sauter dessus après. Bien sûr qu'il y a un problème fiscal avec les GAFA. Mais leur tomber dessus à bras raccourcis en disant ah les méchants, ça permet de cacher d'autres problèmes aussi que par exemple la France a ou l'Europe a, parce que c'est des cibles faciles. Et quelque part, je pense que Apple, Google et tout ça veulent bien rentrer dans les clous, puisqu'il y a des nouveaux clous, mais ils ne veulent pas non plus se retrouver voilà, cloués au pilori. Pour des prétextes politiques. Donc, c'est peut-être pas un hasard que Tim Cook soit venu voir Macron, qui est quand même, en Europe en tout cas, fait partie de ceux qui sont bien déterminés à faire, en tout cas, à appliquer des lois fiscales ou à rétablir des lois fiscales un petit peu plus, un peu moins permissives, effectivement, pour ces entreprises, et que les pays qui hébergent le business de ces entreprises bénéficient un petit peu plus de la manne fiscale de ces entreprises. Donc voilà, il y a eu quand même, il a fait d'autres choses, hein, Tim Cook, il est allé voir une entreprise à Caen qui s'appelle Eldim, et je ne savais pas, vous ne saviez probablement pas non plus, fabrique un composant important de l'iPhone 10, puisque c'est eux, je crois, qui fabriquent l'optique pour la caméra avant, ou en tout cas un des capteurs. Ils sont spécialisés en optique de précision, si j'ai bien compris. Donc il est venu les féliciter pour leur travail. Il est allé voir également, c'était une visite surprise. Les gens de My Little Paris, pour fêter, je crois, leur 11e application sur le store. On l'a vu d'ailleurs découper un poulet, ce qui était très, très intéressant. Il aurait mieux fait de cuire un pigeon, comme je l'ai dit sur Twitter. Et il y a probablement eu des discussions autour de la montée en puissance de la station F, qui, mine de rien, est aujourd'hui le plus grand incubateur de start-up au monde et où Apple aimerait bien installer une antenne, justement, pour accompagner les start-up dans leur développement, notamment, je pense, sur iOS. Donc, il y a probablement eu aussi des discussions dans ce sens-là. Rien d'officiel. Pas d'annonce majeure, hein. On n'a pas appris que tous les petits écoliers français allaient avoir des iPad Pro 9,7 pouces. Il a mangé du poulet, boycott Apple. Il y a du Made in France dans l'iPhone 10. Je pense qu'ils ont bien raclé les fonds de tiroir pour trouver l'entreprise française qui fournissait un composant. Non, je ne veux pas dénigrer, mais... J'ai l'impression qu'Apple voudrait plus d'Apple Store en France. Bah, vu qu'en plus Google va pas vendre son Pixel en France, je pense que la France devient un marché important pour Apple. Hein? Puisqu'on sait que le Pixel a eu un meilleur score sur DxO, donc c'est un meilleur smartphone que l'iPhone. Ça y est, c'est décrété. Je me moque, hein. C'est de l'ironie, hein, là, que je fais. Voilà, en tout cas, pour la visite de Tim Cook. Merci à toi, on te fait la bise. T'as pas trop échappé aux grèves, mais je crois que tu as échappé au gros blocage aujourd'hui, hein. Steve Jobs aurait mangé une carotte. Oui, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas vu découper un poulet, je pense, Steve Jobs. Il serait temps qu'ils ouvrent un Apple Store à Toulouse. Bien d'accord. Un Apple Store dans toutes les villes de France. Hein? Non, mais Toulouse, oui. Je ne savais même pas que vous n'aviez pas d'Apple Store à Toulouse. Ça craint. Fuyez! Comment peut-on vivre sans Apple Store? Bah, en commandant peut-être sur Internet. Non, mais c'est. Là, je me moque, mais c'est vrai que c'est quand même bien pratique un Apple Store, notamment pour le SAV, quoi. C'est bien pratique d'avoir un Apple Store pas trop, trop loin. Allez, on continue. Vous avez peut-être vu le bad buzz de Bethesda avec la franchise Wolfenstein, le nouveau Wolfenstein qui va sortir. Je vous remontre en tout cas un des mini-clips qu'il y avait sur Twitter. Hop. Ça ne veut pas se lancer. Donc on voit un drapeau nazi et des troupes nazies. Et en écriture au-dessus, Not My America. Voilà, c'est du tout petit truc promo. Not My America, et la signature de Wolfenstein était Make America Nazi Free Again, No More Nazi, hashtag Wolf 2. Je sais, hein, ça, moi je tombe de ma chaise quand je lis ça, mais ça a prêté au scandale. Certains nazis américains ont dit bouhouhou, c'est pas bien, c'est de l'anti-nazi, les nazis c'est bien. Et pourquoi vous faites de l'anti-nazi, bande de gauchos? Ok, donc on vit dans un monde où les nazis qui s'autoprogramment... Attention, hein, je suis même pas en train de dire que les mecs se disent de droite ou machin. Non, ils se disent nazis. Ok. Ils disent, ouais, le nazi, c'est un club de vacances, c'est cool. Et que on n'a pas comme ça à faire de la ségrégation envers les nazis. C'est tout le temps les nazis qui ont le mauvais rôle. Ben, ouais. Ils sont sensibles, effectivement. Ils sont sensibles, ces nazis. On aurait dû les ménager un petit peu. Donc, bon, il aurait été normal. Attention, hein, grosse parenthèse, ironie. Jérôme fait de l'ironie. Ne sortez pas cette phrase de son contexte pour la mettre sur Twitter, machin. Même les nazis ont un cœur. Donc Bethesda aurait dû s'excuser auprès des nazis. Ah, mais désolé, on est vraiment désolé. Ben non, ils enfoncent le clou. Hein, Peter Hein, Le patron de Bethesda dit, oui, Wolfenstein a toujours été une franchise anti-nazie, n'en déplaise à ceux qui embrassent les pensées d'extrême droite, et qu'importe le contexte actuel des États-Unis, il n'y a rien de politique là-dedans. Nous sommes bien conscients des événements prenant place actuellement aux États-Unis et ô combien ils font écho à des thèmes de Wolfenstein 2. Wolfenstein est une saga ouvertement anti-nazie depuis le premier jour, il y a plus de 20 ans. Nous n'allons pas nous éloigner de cela. Nous n'estimons pas que le problème, que c'est un problème de dire que les nazis sont le mal et que ce n'est pas américain. Nous ne sommes pas inquiets d'être du bon côté de l'histoire. Bon, j'ai l'impression de vivre dans un monde complètement surnaturel où on est obligé d'expliquer qu'on est anti-nazi, quoi. Juste waouh, quoi. Oui, les nazis sont les méchants, les gars. Seuls les collabos. Hein. Alors, on va pas faire une relecture de l'histoire, mais au même titre, c'est intéressant aux États-Unis les débats sur la Confédération qu'il y a actuellement et la relecture de l'histoire. On aimerait, beaucoup d'Américains dans le Sud aimeraient que. Mais la Confédération aux États-Unis, ce n'était pas des rebelles au début. L'idée, c'était surtout maintenir l'esclavagisme. Donc, c'est des idées quand même, entre guillemets, l'histoire a tranché. Oui, c'est des mauvais. Après, j'ai envie de dire, si vous êtes pour les camps d'extermination et maintenir l'esclavagisme, j'ai envie de dire, c'est votre gros problème. Vous n'êtes pas du côté de l'histoire, les gars, quoi. Merci, test outillage. Merci pour vos tests qui aident bien sur un avis avant achat. Écoute, tu tombes en plein débat sur le. Mais merci pour ton super chat, test outillage. Mais écoute, bon, après, nous, ça nous choque en France, parce qu'en France, entre guillemets, le nazisme est interdit. Tu n'as pas le droit d'arborer. Et de vanter les mérites, ou en tout cas de te balader avec un drapeau nazi en disant Heil Hitler, c'est puni par la loi en France. Ça ne l'est pas aux États-Unis. Ça, il faut bien comprendre. Plus subtil que ça, la guerre de sécession, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire, Guillaume. Il y a des débats très intéressants. Ce n'est pas si subtil que ça, la guerre de sécession. Et justement, bien sûr qu'il y avait des rapports économiques, etc., mais le fondement quand même de la guerre de sécession, c'était le maintien de l'esclavage. C'est quand même la cause numéro un de la sécession du Sud. Donc, après, mais pareil, je veux dire, est-ce que tous les Allemands étaient nazis? Non. Est-ce que les Allemands sont mauvais? Non. Est-ce que le nazisme est né en Allemagne? Oui. Est-ce que le nazisme aurait pu naître à la même époque en France? Moi, je suis persuadé que oui. Regardez quand même comment on a embauché le pas, on a suivi le pas assez facilement. Est-ce qu'il y avait des militaires allemands dans les armées nazies qui étaient des bons gars? Oui, bien sûr. Voilà. Tous les Allemands ne sont pas des nazis. Mais je pense qu'il y a deux choses importantes à comprendre sur la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas la montée du nazisme. Un, les Allemands ne sont pas des nazis. Et deux, la France et d'autres pays européens auraient, on l'a vu avec l'Italie, etc., le nazisme aurait pu naître. Hélas pour les Allemands, Hitler, qui a vu l'opportunité du nazisme les situations économiques de l'Allemagne à cette époque-là en faisaient le terreau le plus fertile pour le nazisme, mais le nazisme, on aurait tous les pays européens, même du monde, auraient pu l'être. Ils étaient quasiment obligés de faire partie de la jeunesse hitlérienne, oui. Bon, on est en train de partir sur des débats, c'est certes intéressant, mais c'est quand même hallucinant qu'une boîte de jeux vidéo où les méchants sont les nazis doivent dire désolé, enfin non, c'est pas excusé d'ailleurs, mais dire bah ouais, on est en anti-nazi, quoi, c'est les méchants, c'est quand même fou dans quel monde on vit. Bref. Allez, hop, 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 focus, on revient sur un sujet un petit peu plus polémique que ça dans notre population. Est-ce que Apple bride les iPhones exprès pour nous obliger à acheter des nouveaux iPhones? Hein? Ça serait un vrai scandale. Et beaucoup de gens le disent. iOS 11 sur mon iPhone 5S, ça a ralenti mon iPhone 5S. Eh bien, a priori, des benchmarks disent que non, non. Techniquement, ça n'a pas ralenti les iPhones. Ce qui ralentit, d'abord, il y a une notion de perception. Il y a aussi, ça je le dis vraiment, hein, c'est une expérience de testeur que j'ai. Méfiez-vous de la première semaine où vous avez installé un nouvel OS, par exemple, qui a changé de numéro. Là, on est passé quand même du 10 au 11. Quand le premier chiffre change, c'est quand même une bonne réécriture de l'OS. Méfiez-vous de la première semaine parce que généralement, il y a encore pas mal de trucs qui se passent dans votre smartphone. Faut attendre que tout se stabilise. Également, d'une manière générale, ça c'est une règle d'hygiène sur n'importe quel smartphone, que ce soit Android, iOS, etc. Quand il y a un changement important d'OS, on passe de 10 à 11, moi je vous conseille vraiment d'en profiter pour réinstaller comme un smartphone neuf. Franchement, aujourd'hui, avec tous nos trucs qui sont sur le cloud, nos emails, nos contacts, plus rien. Enfin, moi, je sais que je n'ai plus rien sur mon smartphone. C'est hyper facile de l'effacer. Il n'y a que les apps que je dois réinstaller et puis rentrer deux, trois codes dedans. Mais c'est super facile aujourd'hui de réinstaller son smartphone comme un smartphone neuf. Donc, c'est même une bonne occasion de le faire, quoi. Les sauvegardes locales, honnêtement, qu'est-ce que vous sauvegardez localement, à part les textos, et qu'est-ce que vous sauvegardez localement sur votre téléphone? Dites-le, la chatroom, qu'est-ce que vous sauvegardez localement sur votre smartphone, à part les SMS, les vrais SMS, hein. Non, bah, les images, elles sont synchro avec le cloud pour la plupart d'entre vous, non? Vous laissez vos photos sur votre smartphone sans les synchroniser avec rien. Les photos et les vidéos, vous les laissez, mais vous êtes tarés. Ben, vous êtes des gros tarés, quoi. Vous perdez votre smartphone, on vous le vole, vous n'avez plus de photos. S'il y a bien un truc que vous devez synchroniser avec le cloud et sauvegarder, c'est vos photos. Je vous rappelle que l'instant photo n'existera plus. Tout le reste, vous pouvez presque reconstruire. Des MP3, des films piratés, tout ça, vous les retrouvez. Même des contacts, vous pouvez les retrouver. Une photo, c'est un moment qui a existé, qui n'existera plus. Donc, si vous perdez vos photos, vous êtes mort. Et alors, ben voilà, tu les synchronises avec Dropbox, donc c'est facile de les récupérer. Vous les synchronisez à la main, putain, mais sérieux. Waouh. Ouais, mais faites pas ça, hein. Faites pas ça quand même, parce que à la main, vous allez oublier. Un jour, vous allez oublier, vous allez perdre toutes vos photos, on va vous voler votre smartphone un jour où vous ne l'aurez pas fait. Franchement, je sais, hein, je comprends vos réticences pour Google Photos, mais là, pour le coup, Google Photos est ton ami, hein. Merci Pascal pour ton deuxième super chat. Team Photo Backup Cloud automatiquement. Moi, j'ai une stratégie complètement inverse. Tout est sauvegardé deux fois sur le cloud et une fois en dur, mes photos. Les photos que je ne veux pas qu'elles soient analysées, honnêtement, j'en ai pas. Mais imaginons que j'ai des photos que je veuille vraiment cacher. Des choses. D'abord, il existe, hein, des apps sur iOS ou d'autres qui vous permettent que les photos que vous prenez, par exemple, merde, comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus, mais il y a plusieurs apps photos, ils vont pas inscrire tout de suite les photos sur votre pellicule. Donc après, vous pouvez décider de les mettre ailleurs. Et donc moi, j'ai toujours, je l'ai pas là, j'ai pas mon iPhone, puisque, mais par exemple, si je voulais vraiment faire des photos intimes, des photos de mon sgeg, hein, disons-le, je ne passerai pas par l'appli photo qui synchronise. J'ai une autre appli qui me permettrait de les ranger plus discrètement, quoi. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas des masses que Google analyse mes photos. Mais bon, ça, c'est moi. Après, je ne juge pas. Je sais juste que si j'avais des photos que je ne veux vraiment pas que Google analyse, bah, je les mettrais sur aucun disque dur ou je les mettrais vraiment sur un disque dur qui ne serait pas connecté au web et vraiment bien rangé, quoi. Oui, après, sinon, si vous êtes vraiment allergique à tout ça, c'est quand même assez facile avec un NAS aujourd'hui, ou en tout cas, programmez-vous des sauvegardes automatiques, quoi. Ah oui, t'as pas besoin de restaurer quoi que ce soit. Moi, elles sont synchronisées sur iCloud. En gros, quand j'installe un nouveau smartphone, je dis, bah, vas-y, ramène toutes mes photos et il déverse tout sur mon smartphone. Si, si, je synchronise aussi avec iCloud. Moi, j'ai iCloud et Google Photos. J'ai les deux, moi. J'ai les deux, j'ai les deux. Bref, tout ça pour dire, non, iOS 11 ne ralentit pas votre smartphone. Au niveau de la batterie, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, les batteries s'usent, ça c'est sûr. Au bout de 3-4 ans, une batterie n'a pas les mêmes performances qu'à l'ouverture de la boîte. Ça, c'est une évidence. Effectivement, l'installation, on le voit, on sait qu'il y a des problèmes avec le 6S. Il y a des problèmes de batterie avec iOS 11. Je pense qu'ils vont être corrigés. Mais là encore, j'ai toujours eu des problèmes de batterie quand j'installais un nouvel OS sur des réglages d'un vieil OS. Donc, premier réflexe d'hygiène, réinstaller votre iPhone comme un iPhone 9 quand vous changez, quand vous faites une grosse mise à jour d'iOS. Oui, l'analyse des photos, bien sûr, c'est des données anonymes, anonymisées, mais ça, on l'a déjà expliqué. En gros, ils en ont rien à foutre de votre tête et de qui vous êtes. Par contre, le fait que vous êtes parti 3 fois en vacances, ça donne des infos sur, voilà, il y a des gens dans telle région qui partent souvent en vacances, qui aiment bien l'Asie, donc ils vendent ce genre de données à un voyagiste, par exemple. Mais vous, non, ils ne vous vendent pas. Ils vendent vos données statistiques. C'est ça qu'ils analysent, Google. Ou acheter un iPhone pour avoir un démarrage propre. Tu n'as pas besoin de l'acheter. C'est une blague, Paladin Bleu, d'accord. Non, parce que sinon, tu vas dans Réglages, tu fais réinitialiser tout. Ouais, moi je sais que je connais quelqu'un, il a eu des gros problèmes avec son 6S, batterie qui se vidait, mais vraiment à vue d'œil, premier jour, ça va mieux maintenant. Comme je vous dis, hein, méfiez-vous des premiers jours quand vous faites une installation. C'est pareil, un nouveau smartphone. C'est pour ça que je vous dis toujours, on ne peut pas faire des tests de batterie en 2 jours, nous les testeurs. Ça ne veut rien dire l'usure d'une batterie la première semaine sur un smartphone, quoi. Entre le nazi et les voyagistes, j'ai peur ce matin. Eh ben, t'as pas fini. T'as pas fini parce que, article suivant, Google a trouvé des contenus sponsorisés liés à la Russie. Et oui, toujours cette histoire. Mais il faut savoir, comprenez bien qu'il y a beaucoup d'articles là-dessus parce que les Américains, c'est quand même leur histoire en ce moment qui est en train de se dérouler. Le Congrès, l'enquête du Congrès pour voir à quel point leur dernière élection présidentielle a été pipée, a été conditionnée effectivement par des forces extérieures, par des influences extérieures, l'ingérence de Moscou dans l'élection américaine de 2016. Et on sait déjà qu'il y a eu des révélations. Facebook était devant un congrès, Twitter aussi. Et Google a trouvé également un réseau de contenus financés par des intérêts russes au sein de ces trucs. Des milliers de dollars auraient été dépensés pour du contenu sponsorisé par des intérêts russes dans le but de faire de la désinformation, notamment sur la plateforme vidéo YouTube. Donc, il y a eu des achats effectivement d'espace publicitaire pour passer des messages politiques qui étaient très anti-Hillary. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Google s'est contenté d'indiquer que le groupe avait une série de règles très strictes en matière de contenu sponsorisé, notamment les limites sur le ciblage de contenus politiques sponsorisés et l'interdiction de cibler des contenus selon la race et la religion. Mais nous approfondissons nos investigations sur les tentatives de détournement de nos systèmes et travaillons avec les chercheurs et d'autres entreprises qui apporteront notre aide aux enquêtes en cours. Donc, ce qu'il faut... On ne va pas retourner encore hein, dans le débat et tout ça, sans parler des photos du sgeg de Jérôme planqué sur son... aujourd'hui, on a basculé dans un autre monde. Voilà. Et négliger, on ne peut plus négliger l'influence d'Internet sur les élections. Et certains l'ont bien compris. Je ne jette pas du tout la pierre aux Russes parce que je pense que ce n'est pas les seuls. Tous les gouvernements ont compris. Et que, à ceux qui s'étonnent pourquoi un gouvernement ingérerait dans les élections d'un autre, bah, pour aller dans son sens. On sait par exemple que Trump est quand même beaucoup plus pro-russe que n'était Hillary. Donc voilà, ça peut être très tentant pour un pays qui en a les moyens. Et les moyens technologiques et qui a compris comment ça marchait, de. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait l'élection, mais d'influencer une élection. On l'a vu avec la nôtre aussi. Hein. On sait aussi qu'il y a eu des tentatives anti-Macron. Hillary Clinton. Pourquoi j'ai dit. Clinton a fait de la propagande? Oui, attendez, oula, ça y est, on n'en a pas de preuves, mais peut-être aussi que le camp d'Hillary Clinton a fait de même, hein. Je n'en sais rien. Là, le problème aujourd'hui, c'est l'influence extérieure, effectivement, des Russes sur l'élection américaine. Le Congrès fait une enquête là-dessus, moi je ne fais que reporter la news. Après, voyez avec le Congrès américain. Parce que d'un côté, tu dis Trump et pas Donald, mais Hillary Clinton n'a pas de nom. Oui, bien constaté. Alors, c'est pas moi, hein, Tofu, hein, m'accusez pas moi, mais c'est vrai que c'est une absurdité du journalisme avec un fond de logique. Clinton, il y en a déjà eu un président, le président Clinton. Donc, les médias américains ont souvent qualifié de Hillary contre Trump et pas Hillary contre Donald. Mais je suis d'accord que d'un point de vue, c'est quelque part enfin, c'est une ségrégation que d'employer le prénom pour elle et d'employer le nom de famille pour lui. C'est vrai que les femmes en politique sont souvent appelés par leur prénom, et c'est une manière effectivement de les diminuer. Donc, mille excuses, j'ai utilisé un travers journalistique. Après, ne me tirez pas trop fort dessus, je suis pas le seul à avoir fait cette boulette. Allez, on continue. 53. Encore deux petites news à faire. On y est presque. Le Google Pixel 2 et le Google Pixel 2 XL, non, ne seront pas disponibles en France. Je n'ai pas cette nouvelle-là et je pense que c'est mort. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas se l'acheter? Bah, on peut quand même. Il y aura des versions import. Donc là, il y a tout un article. Si vous voulez vraiment un Pixel 2 ou un 2 XL, il y a un article de Phone Android qui dit où et comment les acheter en France. Alors, sachez quand même que votre garantie, et ça, moi, j'entends parfois le contraire, mais elle me disait bien que j'avais raison. Votre garantie est liée au pays d'achat. Donc, si vous l'achetez en Allemagne ou en Angleterre, où ils seront dispo, si vous avez un problème avec, il faudra vous adresser au SAV en Allemagne ou en Angleterre. Donc, ça peut être embêtant pour les retours, etc. Il n'y aura pas de service SAV pour le Pixel en France. Donc, il faut juste le prendre en considération. Ensuite, méfiez-vous. Il va y avoir, à mon avis, pas mal de boutiques en ligne et même des grosses qui vont proposer le Pixel en import. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la garantie sera bien. Enfin, si, vous aurez une garantie avec le marchand, mais ça veut dire qu'ils seront probablement beaucoup plus chers en France. Vous paierez le prix de l'import. Donc, il faudra vraiment comparer, aller voir. C'est relativement facile d'acheter au Royaume-Uni ou en Allemagne, puisque, bon, enfin, pour le Royaume-Uni, ça va se compliquer, mais globalement, pour l'instant, on est tous dans le même marché commun, donc c'est tout à fait faisable. Attention, les achats aux États-Unis et tout ça, les frais de douane et ce genre de choses, hein, ça peut être assez embêtant. Je vous rappelle que le Pixel 2 sortira dans ces pays-là le 19 octobre et le 2 XL sortira plus tard. Alors, les prix actuellement en Allemagne, le Pixel 2 64 Go sera à 799 euros. Le Pixel 2 128 Go sera à 909 euros. Le Pixel 2 XL 64 Go sera à 939. Et le Pixel 2 XL 128 sera à 1049 euros pour l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne sera certainement le Google a des comptes à régler avec la France. Écoutez, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne pense pas que ça soit une carte maîtresse à jouer. Oh, France, tu veux qu'on paye des impôts, nous, Google, on ne sortira pas le Pixel en France. Et là, t'as Bercy en France qui fait « Ah là là, oh là là, j'ai peur, tu vas pas sortir un produit que tu vas pas vendre en France et tu crois que je vais te faire une réduction d'impôt à cause de ça? Ah bah ça va vachement bien marcher. » Non, c'est ridicule. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ridicule comme hypothèse. Qu'est-ce que Bercy, on en a à foutre que Google? Non, moi je pense que c'est plus une question de stock, mais et qu'ils ont dû faire des études de marché, que l'Allemagne et l'Angleterre sont peut-être plus intéressants comme marché que la France. Et que pour l'instant, ce n'est pas des lancements internationaux, Pixel. Ah oui, une question de législation. J'ai des gros doutes aussi. Après, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à s'entendre avec les opérateurs en France? C'est possible. Est-ce que c'est un moyen de faire pression? C'est possible. Après, honnêtement, le grand public ne s'intéresse pas aux pixels, hein. Il n'y a que vous. Enfin, je suis désolé de vous le dire, hein, mais le grand public, ils ne sont pas là. Oh, il n'y aura pas le pixel en France. Ils ne sont pas trop. Moi, je pense que Google est encore très prudent et n'a pas fait un lancement mondial. Comme il y a beaucoup de fabricants chinois qui ne lancent pas leurs smartphones dans tous les pays, il y a des smartphones qui ne sont pas lancés en France. C'est des choix tactiques parce qu'il faut pas oublier qu'une mauvaise gestion des stocks, ça peut vous plomber un succès, quoi. S'ils prévoient trop de pixels ou pas assez de pixels dans des pays. Et je pense que la France, ils ont dû faire des études de marché. Ils ont peut-être pas eu des informations claires sur ce qu'ils étaient capables de vendre comme pixels en France. Moi, je verrais plus ça, quoi. Xiaomi va ouvrir une boutique physique en Grèce. Oui. Enfin, en tout cas, c'est les news, oui. Ah bah oui, ça a un coût et c'est surtout un gros risque de lancer un smartphone. Vous vous retrouvez avec des stocks sur les bras, vous êtes mort, hein. C'est pour ça, on est tous là, mais comment ça se fait qu'une marque comme Apple ou Google ou machin ne prévoit pas assez de stocks à la sortie? Oh là 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 là. Mais c'est que les stocks, c'est une science très compliquée, hein, les achats. C'est une catastrophe industrielle si vous vous retrouvez avec plein de stocks sur les bras. 8h59. Bon, bah, je terminerai pas à l'heure. Allez, je Je voulais vous parler de la carte Navigo. La carte Navigo sera enfin disponible sur smartphone en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir passer votre smartphone et sa puce NFC pour pouvoir prendre le métro. Mais attention, bien sûr, ils ont rendu les choses un petit peu plus compliquées. En fait, non seulement il faudra que votre téléphone ait la puce NFC, mais il faudra que votre carte SIM ait aussi une puce NFC. Alors, c'est le cas de pas mal de cartes SIM récentes, mais moi, je sais, par exemple, que ma carte SIM, il n'y a pas de puce NFC dessus. C'est une vieille carte SIM. Donc, il faudra penser à changer aussi votre carte SIM. Alors, le truc qui va être intéressant, moi j'attends de voir dans le détail. Moi ça m'intéresse si ça me permet d'acheter des billets au détail. Parce que moi je ne veux pas du pass Navigo. Je veux pouvoir acheter des billets au détail parce que je ne prends pas le métro assez régulièrement pour que le Navigo soit intéressant pour moi. Ça c'est la première chose qui m'intéresse. Alors, la première question qu'on va se poser, qu'est-ce qui se passe si mon iPhone, mon smartphone n'a plus de batterie? Ça marchera quand même. La puce NFC n'a pas besoin de. Les puces NFC, puisqu'il faut celle de votre carte SIM et celle de votre téléphone, n'ont pas besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, même si vous n'avez pas de batterie, vous pourrez quand même prendre le métro. Par contre, si vous le faites voler ou vous le perdez, bah là, oui, il faudra vous rééquiper avant de pouvoir réutiliser le service. Il y aura probablement un système pour le bloquer à distance si vous faites voler votre smartphone pour pas que quelqu'un profite de votre Navigo, mais ne serait-ce que après, si vous avez bien verrouillé votre téléphone, même si on vous le vole, a priori, la personne ne peut pas rentrer. Après, moi, je sais que si on me vole mon smartphone, je détruis tout à distance très rapidement. Est-ce que ça marchera avec les smartwatches? C'est une bonne question. Il n'y a pas de news là-dessus. J'ai des doutes, puisque là, ils ont mis un double système NFC. Donc, il faudra que ta carte SIM soit NFC et ton téléphone. Donc, pour les smartwatches, je ne sais pas si ça marchera. Le Navigo ne sera pas sur iOS à tous les coups. Ben, le truc, c'est qu'on sait. On ne sait pas bien, enfin, Apple a un peu ouvert la porte de sa puce NFC, mais pas des masses. Par exemple, le NFC qui, sur Android, j'arrive à appairer avec mon appareil photo, le NFC de mon iPhone ne marche pas du tout pour faire l'appairage avec mon. Donc, ce n'est pas un vrai, entre guillemets, NFC qu'il y a dans les iPhones. Donc, on verra si ça va être compatible, s'ils ont laissé une API pour le développement d'une appli iOS. Ça m'étonnerait quand même que Navigo se lance s'ils n'ont pas iOS. Mais il y en a marre, il y a d'autres villes que Paris et la RATP. On est d'accord, 626, si j'en parle, c'est que vous aussi, vous avez des passes aujourd'hui dans toutes les villes de France. Il est probable, et il y a peut-être déjà d'ailleurs des villes où tu peux payer avec ton smartphone, qui sont bien plus en avance que le Navigo. En France, arrêtez de troller. Strasbourg, tu payes déjà avec ton smartphone, ouais. Oui, ça ne me surprend pas. Non, mais au niveau des transports publics, Paris est hyper en retard, hein. À Grenoble, tu peux payer avec ton téléphone, mais ça ne marche pas top. Ah, d'accord. Donc voilà, c'était effectivement une news pour les Parisiens. Ça va venir, mais pas avant 2019. Et à ce moment-là, en 2019, Strasbourg, ils vivront déjà dans un hologramme bien plus en avance que nous. Pour prendre le funiculaire pour aller au Nantes, bah ouais, passage de smartphone. En même temps, le funiculaire pour le Nantes, il y aura une telle concentration de puces NFC qu'on va bien arriver à faire bugger leur truc. Comme à Rio, qu'est-ce qu'il y a à Rio? À Mulhouse aussi, ça marche. Ah oui, le funiculaire, oui. Le geek overload du funiculaire de Montmartre. Ce serait bon, ça, comme histoire. Et voilà, en tout cas, la fin de ce Texcope. C'est fini. Mais il va y avoir le Q&A. Mais avant ça, je voulais vous remercier de l'avoir suivi et d'avoir présenté ce Texcope avec moi. Vous avez été formidables comme tous les matins. Je voudrais remercier nos super chatteurs qui nous ont fait des dons en direct, test outillage. Pascal, Jérôme, Samuel et Pascal encore, on vous remercie de vos super chats. Je vous rappelle que le Tipeee, la page de Tipeee a été légèrement modifiée avec un nouveau palier. Si vous voulez aller vous informer, on vise déjà plus loin que le troisième palier parce qu'on y croit. Et on a également ouvert une vingtaine de, là il doit y en avoir plus qu'une quinzaine, de nouveaux comptes Early Bird Platinum à 7 euros. Pour ceux qui attendaient ça, c'est l'occasion. Est-ce qu'il y a des questions Platinum, Samuel, ce matin? Parce que c'est un des privilèges des Platinum, c'est de pouvoir poser des questions prioritaires sur les autres. Pas de questions Platinium. Eh bien, nous allons passer aux questions des autres. Si vous avez des questions, je suis là pendant 5-10 minutes pour vous répondre avant de vous lâcher les baskets et de vous laisser partir à votre belle journée. DJI Ronin M ou Crane V2 comme stabilisateur. Le Ronin, il est beaucoup, beaucoup plus cher quand même. Le Crane V2, il a l'avantage d'être quand même. C'est un truc à la main. En gros, je vais te donner conseil. Si ton appareil photo, c'est un hybride assez léger, prends le Crane V2 parce qu'il sera beaucoup plus mobile comme stabilisateur. Si tu as une plus grosse caméra, un gros 5D avec des gros objectifs ou des trucs comme ça, il faut partir chez Ronin. De toute façon, ça ne marchera pas. Hein. Le poids limite, je crois que c'est 3 kilos, même pas pour le Crane V2. Le Crane 2, non, il s'appelle le Crane V2. Quel bruit fait le requin-guêpe? Il fait bzzz, bzzz. Voilà, c'est le bruit du requin-guêpe. Plus que 8. Ah oui, putain, d'accord. Les Early Birds sont partis vite. Il n'y en a plus que 8 des Platinum Early Birds. Donc dépêchez-vous. Dans le montage vidéo, ton écran à quelle taille et résolution? Car j'hésite à prendre un 32. Ou deux écrans Full HD de 27. Moi, il fait 2560 mon écran. Alors, ce n'est pas un 32 pouces, c'est un 27 pouces, je crois. Moi, j'aime bien avoir pas mal de résolution parce que ça permet d'afficher plus d'outils, test outillage. Donc, je te conseille plutôt de prendre un écran avec une bonne résolution, quitte à en acheter un autre après pour avoir deux écrans. Mais sur ton logiciel de montage, tu vas afficher plus de choses quand même. Est-ce que Disney t'a contacté depuis ton imitation de dragon? Non, mais Peter Jackson m'a appelé parce qu'il est en train de réfléchir à faire des films sur des livres de Tolkien qui n'auraient pas existé. Et il a pensé à moi pour Smaug le dragon, ouais, effectivement. Rawr, voilà, le dragon qui fait peur. Oula, oula, il y a beaucoup de questions. Apparemment, Apple conserve la garantie si tu changes l'écran ailleurs que chez Apple en attendant Huawei faire sauter les garanties en cas de casse écran. Je suis dégoûté. J'ai un conseil à te donner, 626, mets de la ponctuation. C'est dur à lire tes phrases. D'accord. Oui, je crois qu'Apple peut conserver ta garantie même si tu as changé ton écran, mais faut pas que ça soit un réparateur quand même. Officiel Apple, je sais plus. Vous cherchez encore quelqu'un pour aider pour les vidéos. Aujourd'hui, on est. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a répondu à l'appel. Il y a déjà 16 personnes. J'ai du mal à gérer ces 16 personnes. Je ne vais pas pouvoir travailler avec 16 personnes. Petit à petit, je commence à travailler avec certains d'entre vous. Donc, pour l'instant, non. On n'a pas besoin de monde pour l'instant. Après, pour un vrai stage. Je cherche peut-être encore. Mais attention, vrai stage, il faut que vous soyez dans une école, qu'on puisse faire une convention de stage. Voilà. Moi, pour des questions, il faut qu'on vous compreniez, pour des questions d'assurance, je ne peux pas. Voilà, il faut qu'il y ait une convention de stage. J'utilise quoi comme stand pour mon APN? J'utilise une poignée Peak Design. Osmo Mobile fonctionne sur l'iPhone 7 Plus. Oui, Osmo Mobile n'est pas vraiment dépendant de ton smartphone, sauf pour l'application, mais même tu peux le faire marcher sans application. Donc oui, il est parfaitement compatible, l'Osmo Mobile. Tu n'as plus de sponsor? Non, sur l'émission Techscope, on n'a plus de sponsor. Hélas, ça n'a pas l'air d'avoir intéressé beaucoup de monde finalement. Pourquoi donner le nom de caméra à des réflexes? Pour deux raisons, Bernard. D'abord, les Américains appellent ça des caméras, que ce soit un appareil photo ou une caméra. Donc, erreur de langage, comme j'écoute beaucoup de podcasts américains sur la photo et la vidéo, je dis caméra assez facilement. Ensuite, c'est des vraies caméras. Aujourd'hui, les réflexes et les hybrides, attention, il n'y a pas que les réflexes et les hybrides ont des fonctions de caméra qui sont aussi, voire plus évoluées que des caméras qui font que caméra. Et pareil, il y a beaucoup de maintenant de caméras, on va dire traditionnelles, avec la poignée qui ressemble à des caméscopes, qui font de la photo aussi. C'est-à-dire tout ça se mélange en fait. Je suis désolé, je ne peux plus remonter dans les questions. Reposez-les là. Oui, je devais faire un test de l'osmo. Il y a beaucoup de tests que je devais faire que je n'ai pas eu le temps de faire pour l'instant. Tu as besoin de quelqu'un pour porter le café? Non. J'ai vraiment besoin d'un assistant ou d'une assistante. Mais pour les questions d'assurance, c'est quand même un problème sérieux. Si vous vous blessez en venant. Pour faire votre stage ici et qu'on n'est pas couvert par une convention, ce genre de truc, et que vous êtes genre handicapé à vie, ce genre de truc, ça peut être très compliqué pour la responsabilité civile. Oui, c'est plutôt moi qui fais le café pour les stagiaires, ouais. Non, après, moi, le problème ici, c'est un problème de place, hein, les gens. Oui, j'aimerais bien monter une équipe de 5 si des bénévoles veulent bo bien bosser, mais je n'ai pas un local où je peux mettre 5 personnes, quoi. Donc, si après, vous avez un local d'entreprise à me filer qui est sympa, mais je n'ai pas de quoi payer un local pour l'instant. Voilà. Est-ce que tu crois que l'iPhone 10 aura du retard? Je sais pas. Moi, à mon avis, s'il y avait vraiment des gros problèmes de stock, Apple repousserait la sortie. Apple ne peut pas se permettre le bad buzz d'un marché noir. Parce que c'est ça. S'il y a vraiment une pénurie d'iPhone 10, il va y avoir un marché noir avec des prix complètement fous. Et Apple ne peut pas se permettre ce buzz. S'ils le font, ça craint. S'il commence à y avoir des iPhone 10 à 6 000 euros sur le marché noir, c'est mauvais pour l'image de marque d'Apple. Donc, s'il y avait vraiment des gros problèmes de stock, Apple retarderait la sortie. Après, est-ce qu'il y aura des retards? Genre, si tu commandes ton iPhone 10, il mettra peut-être 2 mois à arriver. Oui, peut-être. Tristan est toujours chez Nowtech. Oui. Tu sais qu'il enfin, il a déménagé à Zurich. Il a moins de temps en ce moment pour faire des vidéos. C'est pour ça que vous le voyez moins. Je compte bientôt faire des vidéos. Est-ce que je peux envoyer un lien avant la mise officielle pour te demander ton avis? Victorious Big, je vais être honnête, je ne vais pas avoir le temps. J'aimerais tellement avoir le temps de vous aider tous et de regarder. Il y en a déjà beaucoup qui m'envoient leurs vidéos sur YouTube pour que je donne un avis. Je n'ai pas le temps de le donner. Je suis vraiment désolé. J'aimerais vraiment. Hein. Je ferai peut-être des sessions live si je trouve du temps pour faire des sessions live où on fera des critiques de vos productions ou ce genre de trucs. Mais aujourd'hui, si je veux maintenir le rythme des productions vidéo de Nowtech telles que vous les aimez, hein, la manière qu'on a de les faire, j'ai pas le temps de faire tellement d'autres choses que ça, quoi. Est-ce que tes comptes sont en Suisse ou en Hong Kong? Ben non, non, c'est Crédit Agricole au bas de la rue. Alors, oui, c'est une bonne idée, ça. Merci de la donner, Coldiary. N'hésite pas, si tu es sur le Slack, Victorious Big, tu donnes une petite contribution pendant quelques mois, par exemple, si tu veux tester, et à partager ta vidéo sur le Slack auprès de la communauté qui pourra te donner du feedback. Je sais que Langue de Geek le fait pour te faire un feedback sur la communauté Nowtech, quoi. Faut pas hésiter. Pareil, si vous développez des applis ou ce genre de trucs, la communauté Slack, c'est des très bons bêta-testeurs et ils vont vous dire ce qu'ils pensent de votre produit. L'épisode de Star Trek d'hier, il était mieux que la semaine dernière. Il était pas mal. Sur ton Lumia 960, est-ce que tu peux installer WebOS? Pour les sponsors Techscope, quel genre d'entreprise aimerais-tu avoir comme sponsor? Je suis ouvert, je n'ai pas forcément de préférence. J'aime bien, le prix étant très doux, hein, c'est 100 euros par mois pour devenir sponsor, c'est franchement ridicule. J'ai fait ce prix un peu pour les startups aussi, ça peut être sympa pour les startups. Oui, je devais déménager avec Marion, mais pour l'instant, notre situation financière ne nous permet pas, on ne trouve pas d'appart. Enfin, c'est problématique. Mais oui, c'est le but au final, c'est qu'on emménage avec Marion. Si vous avez des super plans immobiliers, surtout un plan qui ne demanderait pas. Le problème, c'est qu'avec les revenus de la chaîne YouTube aujourd'hui, mes revenus sont très fragiles. Vous imaginez bien que sur le marché de la location, j'ai un dossier complètement pourri, quoi. Même si j'ai des bonnes cautions, etc. En gros, on va passer derrière tout le monde avec notre dossier, quoi. Donc, si vous avez des bons plans dans l'immobilier dans Paris intramuros, bah, faites-nous suivre. Pourquoi un bad buzz si ça faisait un marché noir? C'est très mauvais pour une marque. Si parce que la presse fera des choux gras. Les smartphones à 6 000 euros, mais que fait Apple? Pourquoi Apple n'a pas prévu les stocks? Les gens se ruinent, les gens sont devenus fous, ils achètent des iPhone 10 à 6 000 euros. Non, c'est très mauvais le marché noir pour Apple. Ah oui, mais Victorious Big, Salon de Provence, pourquoi pas? Mais Marion, elle a son job sur Paris, hein. Je n'ai pas demandé à Marion de changer de job juste pour la chaîne. Non, non, puis elle aime bien son boulot, on aime bien Paris en plus, voilà, donc pour l'instant, il n'est pas question de quitter Paris. Le live, là, c'est l'iPhone 8 Plus qui fait le live, là. Allez, je prends une dernière question et puis je vous quitte et on se retrouve demain. Ouh! Une dernière petite question, si quelqu'un en a une. Dailymotion depuis New York. Ah, ça a failli arriver, hein, New York. Hein. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin à 8 h, comme d'habitude. Je garde le 8. Non, pour l'instant, je le garde pour le comparer au 10 quand on aura un 10. Mais je ne sais pas encore ce que je garde. Ça vous angoisse beaucoup, hein, ce que je vais garder comme smartphone. Je vous le dirai, je vous le dirai, je vous rassure. Je vous embrasse très très fort. Passez une très très bonne journée. Et on se retrouve demain à 8 h. Ciao, ciao.